RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Maître Sandrine Pégan, avocate, Emmanuel Deville, l'entrepreneur. Nous sommes avec Barbara Lefebvre, l'enseignante. Permettez que je souhaite un bon anniversaire à Louis Gerbier, notre coproducteur.
Oh, happy birthday! Oui,
c'est son anniversaire aujourd'hui à l'ami Louis.
Ça lui fait quel âge, 52?
L'âge du Christ.
Ah bah ouf. Oh. Donc,
après, on va voir si ça se termine bien la journée ou pas. Quoi, pour lui, c'est...
Il n'avait pas 33?
Ouais, du Christ. Ouais, c'est ce qui a valu d'ailleurs à Louis un SMS très aimable de Didier Giraud, notre agriculteur, qui lui a dit méfie-toi des clous.
Oh, très subtil.
Ah, bah, c'est l'humour de Saône-et-Loire.
Ouais, ouais. Ça,
c'est comme ça.
C'est l'humour rural.
De quoi va-t-on parler dans... Il va être furax, là. Il est en train de nous écouter, Didier. On l'embrasse.
On t'aime.
De quoi va-t-on parler dans la deuxième heure des GG, dans la deuxième heure des Grandes Gueules? Tout à l'heure, à 11h20, de ces universités qui imposent des cours de remise à niveau en français à leurs étudiants. Difficultés de compréhension, problèmes de syntaxe, d'orthographe. En début d'année universitaire, il y a certains qui sont obligés de faire des remises à niveau de français. Je ne sais pas si tu le vois, peut-être d'ailleurs avec les nouveaux avocats qui peuvent arriver, s'ils ont des problèmes de français aussi.
Alors, pardon, mais j'espère que mes deux élèves avocats ne m'écoutent pas, mais c'est assez problématique.
Voilà, bah on y est. Donc, remise à niveau aussi. Tout à l'heure, on en parlera à 11h20.
Sandrine, elle fait des dictées.
10h20, Patrick Bruel Maître va pouvoir Capello. Remonter sur scène. Il est sous contrôle judiciaire, mais il pourra remonter sur scène. Est-ce que vous trouvez ça normal ou choquant? Et là, on va s'intéresser à une pièce de théâtre qui a été annulée par un maire Rassemblement National. Nous sommes à Castres. Nous sommes à Castres. Le metteur en scène, on le connaît, c'est le metteur en scène numéro un en théâtre en ce moment en France, c'est Alexis Michalik. Sa pièce s'appelle Passeport. Elle traite du parcours d'un migrant érythréen. La mairie Rassemblement National de Castres n'en veut pas de son spectacle. Voilà les explications de Michalik, sa réaction.
Je suis surtout très inquiet, en fait. Le maire de Castres, déjà, il le fait à la dernière minute, alors que la pièce avait été validée par la mairie précédente. Je veux dire, c'est fou de l'assumer publiquement et de se dire, ah d'accord, ok. Donc en fait, clairement, il n'y a plus d'indépendance dans la programmation culturelle si jamais la mairie tombe aux mains du RN, quoi. C'est un peu une méthode trumpienne de pousser de plus en plus loin en disant, bah si ça passe là, bah on va continuer à faire passer.
Alors, est-ce que c'est de la censure? Est-ce qu'on doit crier au scandale 32-16 pour le dire au GG?
Oui, c'est Michalik hein, qui a mis en avant cette histoire, puisqu'il a commencé par raconter cette censure, dit-il, sur Instagram, pour expliquer que chacun est libre d'aimer ou pas la pièce, mais chacun devrait aussi être libre de la voir. Il dit donc redouter une sélection idéologique des œuvres et appelle à rester vigilant. Le nouveau maire donc de Castres est un maire Rassemblement National, Florian Azéma. Lui, il justifie sa décision en estimant que l'argent public doit être dépensé correctement. Il affirme qu'aucun contrat n'avait été signé par l'ancienne majorité et donc il revendique son droit de revoir la programmation culturelle après son élection. Alors, qui a raison dans cette histoire?
Emmanuel Devilliers.
Une municipalité a parfaitement le droit de décider de sa programmation culturelle. Il y a eu un changement de municipalité.
Selon des critères politiques?
Bien sûr, il y a une adaptation. Une adaptation de la programmation. Et il faut bien voir que dans le cadre de cette nouvelle municipalité élue, la programmation de la dite pièce, indépendamment du talent du metteur en scène, avait un caractère de provocation. Parce que c'est une pièce très engagée. Moi déjà, quand j'étais au collège, on m'emmerdait avec les pièces d'Eugène Ionesco. On m'avait même amené en bus à la cartoucherie de Vincennes, voir... La fameuse
dans un temps lointain
Ariane Mnouchkine,
voilà, la fameuse cartoucherie avec Ariane Mnouchkine,
des pièces... c'est merveilleux, Ariane Mnouchkine,
oui, oui. Des pièces où on comprenait rien,
pas du tout, oui, mais c'est la nuit déjà.
Donc les castrés, les habitants de Castres, s'ils veulent voir la pièce, ils ont qu'à prendre un billet de train si la SNCF n'est pas en grève, ouais, pour aller à Saint-Denis, où la municipalité de Saint-Denis ne manquera pas de programmer cette pièce.
Alors cette pièce raconte, comme tu l'as dit Alain, un migrant érythréen qui est devenu amnésique après avoir été laissé pour mort à Calais. Calais et qui va essayer d'obtenir un titre de séjour. Ça, donc c'est sur le thème de l'intégration, etc. Mais Michalak dit, moi, ce n'est pas Michalik, il dit que ce n'est pas ce n'est pas du théâtre militant ou documentaire.
Non, pas du tout.
C'est
pas
une
du
histoire militant. Humaine qui s'adresse à tous.
Alors moi, je l'ai vu la pièce. Je l'ai vu et c'est pas du tout un tract politique. Ça dure presque 3 heures. J'étais extrêmement bien placée. Je trouve que c'est une. Je dis ça parce que quand t'es au devant de la scène, vraiment, t'es encore plus happé par par l'histoire en elle-même. C'est une histoire qui est bouleversante, qui est magnifiquement interprétée. C'est une vraie histoire humaine et j'en ai même pleuré.
Oui, oui. Et les moi, gens qui sont agressés à Calais baraque, c'est bouleversant aussi.
Mais à chaque fois, tu nous fais part.
C'est pas un documentaire, Emmanuel. C'est une pièce.
Mais qu'un élu n'aime pas qu'un élu n'aime pas l'œuvre, ok, très bien, je l'entends. Mais qui décide pour son public parce qu'il trouve que c'est dérangeant politiquement, je trouve que c'est de la censure idéologique. Et c'est un exemple flagrant de l'idéologie de l'extrême droite. Donc si elle est au pouvoir, voilà ce qui nous attend.
Mama.
C'est une pièce militante et M. Michalik a bien le droit de le faire, il fait ce qu'il veut. Alors, par contre, quand en 2017, le Festival d'Avignon annule la lecture théâtrale de la pièce de Charb, Lettre aux escrocs de l'islamophobie, et Festival d'Avignon, donc c'est pas des, hein. Oh, alors là, pas de problème. Quand, en 2019, il y a la pièce Les Suppliantes d'Eschyle, mise en scène par Philippe Brunet, où les comédiens et les comédiennes portent des masques antiques, dont certains sont effectivement des masques noirs. On a les militants de l'UNEF et des militants antiracistes qui font annuler la représentation à la Sorbonne parce que c'est des blackface, et la mairie de Paris et les écologistes qui suivent. Ça, c'est la gauche. Donc là, il y a pas de problème non plus. Quand le maire PC, Gilles Pou de la Courneuve, fait retirer une Marianne au sein nu de l'artiste de rue Combo, parce que la Marianne au sein nu, ça a blessé quelques-uns de ses administrés, et il demande pas de problème non plus. Donc moi, je suis navrée.
Tu veux le dernier exemple en date?
Deux poids, deux mesures, et il y a le dernier exemple en date.
Marseille.
C'est Marseille, le Sacré-Cœur. Sacré-Cœur,
le film Sacré-Cœur. Non, mais il y en a même encore un dernier.
Vas-y.
C'est le réalisateur israélien Nadav Lapid.
Ah, Nadav Lapid, non,
Nadav Lapid,
même pas.
Qui est un adversaire de Benjamin Netanyahou, qui devait présenter son film à Marseille. La mairie a décidé de ne pas le programmer
d'ailleurs,
dans un
festival. Monsieur Michalik a signé la pétition pour dire que c'était inadmissible de demander le boycott de Nadav Lapid.
Donc Michalik est assez cohérent.
Oui, alors, il est cohérent,
il est pour
sauf
la
que...
liberté d'expression.
Oui, oui, mais sauf que fait la municipalité du Rassemblement National, des municipalités de gauche le fait aussi.
Oui, mais, le problème, c'est donc tu renvoies le maire de Castres à l'intolérance des maires de gauche.
Monsieur le maire, bonjour.
Je dis que chacun fait ce qu'il veut et qu'apparemment, il y en a qui ont l'indignation à géométrie
variable. Oui, d'accord, mais dans les deux cas, c'est de la censure.
Bonjour, monsieur le maire.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que vous l'avez pris par vengeance politique, la censure, parce que ça traite de l'immigration?
Mais pas du tout, écoutez. Moi, je trouve que c'est une polémique vraiment artificielle. Toutes les équipes municipales en France adaptent, ajoutent, font des choix en fonction de ce qu'ils ont proposé en matière de programmation.
Pourquoi vous n'avez pas retenu cette pièce
alors qu'elle cartonne?
C'est vrai pour toutes les collectivités, qu'elles soient de droite, de gauche ou du centre. Je veux dire, là, c'est monté en épingle. Je ne comprends pas qu'il y ait une polémique à ce stade, très franchement.
Pourquoi avez-vous pris cette décision alors?
C'est un peu compréhensible. Mais,
tout simplement parce que moi j'ai été élu au mois de mars. Cette programmation, enfin cette pièce, il y avait eu un accord de principe. Rien n'avait été signé avec ces artistes. Je rappelle que nous avons été élus en mars, et donc je fais des choix et j'applique ce pourquoi j'ai été élu. Moi, je suis parti et j'ai proposé une culture du divertissement populaire et pas un prétexte qui soit de l'idéologie politique.
Ah, donc c'est une décision politique que vous avez prise.
La description qui est faite par M. Michalik, elle est politique. Il le dit lui-même. Il l'a même rappelé hier sur le plateau de 35. Partout en France, les élus font des choix culturels parce que il faut quand même rappeler une chose, c'est que derrière, c'est l'argent du contribuable. On ne va pas se raconter d'histoire.
Oui, mais du coup, vous privez une partie de vos administrés de voir la pièce.
Vous allez
ils iront la voir ailleurs.
Vous allez remplir la salle avec
Mais pourquoi les priver s'ils n'ont pas d'argent aussi, les castrés, pour pouvoir
monter? Attendez, laissez répondre le maire. Allez-y, monsieur le maire.
Je rappelle quand même que c'est un théâtre municipal, ce n'est pas un théâtre associatif. Derrière, c'est l'argent du contribuable. Et puis, mais vraiment, j'insiste là-dessus, il n'y a rien qui a été signé. J'avais la totale liberté de programmer.
Oui, mais on ne comprend pas parce que c'est une pièce qui cartonne à Paris.
Mais monsieur Michalik peut louer un théâtre.
On peut poser une question sans être interrompu toutes les deux minutes, merci. Monsieur le maire, cette pièce, elle cartonne à Paris. Donc c'est un succès assuré chez vous à Cas. Vous remplissez le théâtre.
Mais c'est la 9e année.
Moi, j'ai été élu, monsieur, pour faire des choix politiques aussi.
Donc, c'est un choix politique.
J'ai proposé un programme en matière culturelle, je l'applique. Là, c'est des choix qui ont été faits sous l'ancienne majorité.
Quelle obédience.
Moi, je n'étais lié par aucun contrat avec cet artiste. J'avais la totale liberté de programmer ce pourquoi j'avais.
Alors, c'est quoi une pièce de RN alors? Parce que là, vous voulez passer une pièce qui serait une pièce. C'est quoi une pièce RN?
Le maire a parfaitement raison.
Mais non, mais je voudrais savoir.
Il veut du divertissement populaire, c'est ce
qu'il a. Non, mais je voudrais avoir un exemple. C'est quoi une pièce RN?
Non, mais il n'y a pas de pièce RN, il n'y a pas de pièce politisée. C'est pas ça.
Vous dites, je fais des choix politiques. Donc, quel est le choix culturel politique?
Monsieur, j'ai défendu un programme dans le cadre de la campagne électorale. Je suis en fonction, j'applique mon programme. Je ne suis pas lié avec ce qui avait été décidé sur l'ancienne majorité pour le mois de février.
D'accord, mais c'est pas ma question. C'est quoi une pièce qui a grâce à vos yeux?
Ben oui, je vais pas répondre à la pièce de monsieur Azéma, mais monsieur Florent Azéma est élu RN. Oui. Il est opposé de façon radicale à l'immigration illégale. Il va pas. On peut comprendre que ça plaise ou pas. Je suis pas en train de dire que ça me plaît ou pas, mais.
Donc toi, tu ne vas voir que des choses.
Mais non, c'est pas une question.
D'abord. Qui sont non, dans.
Excuse-moi.
Dans
quand tu habites, quand tu habites à La Courneuve, à Saint-Denis ou à Pierrefitte, je te défie d'aller y voir des pièces qui sont pas des pièces d'extrême gauche.
Mais c'est pareil.
Palestine tous les quatre matins, c'est toujours la même chose aussi.
En fait, Barbara, tu ne défends pas la liberté d'expression.
Non, quand j'habite La Courneuve, si je veux voir. Quand j'habite La Courneuve, si je veux voir autre chose que ce que me sert la municipalité, je vais dans un théâtre privé, je vais dans un cinéma, je prends mes petites jambes.
Mais non.
Eh ben à Castres, c'est pareil.
Mais le maire, il est le maire de tout le monde.
Ils prennent leurs petites jambes, ils vont voir ailleurs.
La mairie n'est pas là
pour subventionner des pièces politiques.
C'est dingue de dire ça. Et toi, t'es prof en plus, c'est effrayant. Donc en fait, toi, en tant que prof, parce que t'es de droite, donc on dit que des livres de droite quand on est dans ta classe.
Pas du tout.
Bah non. Donc tu as compris, t'as bien compris que il faut offrir justement un panel assez large. Le maire, il n'est pas seulement le maire des électeurs du RN, il est le maire de tous les habitants de Castres. Le maire de Paris, il n'est pas les habitants uniquement des habitants de droite.
Est-ce que le maire de La Courneuve, va voir ce que ça donne les maires de La Courneuve, les maires de Pierrefitte et compagnie. Non, parce que justement, va voir, tu verras. Donc taper de tous les côtés au lieu de taper toujours que d'un côté, c'est toujours pareil.
Le maire a expliqué qu'il n'avait pas à mettre 1 euro dans cette pièce. Michalik, il a qu'à la payer sa pièce lui-même dans son théâtre.
Mais la morale même de la pièce, vous l'avez pas vue, ça se voit. Alors vraiment, allez la voir pour critiquer après en connaissance de cause.
Oui, ben va à Calais aussi voir les migrants parce qu'il n'y a pas que la pièce.
C'est pas un problème ça. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est un migrant qui arrive à Calais, qui malheureusement, il lui arrive ce qui lui arrive parce qu'il a un accident. Et après, il réussit à s'intégrer. Il crée un restaurant, il crée de l'emploi et il s'est intégré. Donc alors, on est contre l'immigration illégale. Ok, j'ai compris à Castres. Mais en revanche, on est pour l'intégration. C'est-à-dire que l'immigration choisie, apparemment, c'était là aussi pour, à partir du moment où tu t'intègres.
Là, elle n'est pas choisie puisqu'elle est illégale à la base.
Oui, elle est illégale, mais après, il s'est intégré.
Enfin, vous avez ouvert, vous avez quand même une étroitesse d'esprit.
Il a réussi à avoir un titre de séjour.
Donc, en gros, quand on est de droite, on doit avoir que des pièces de droite.
Allez-y, monsieur le maire. Allez-y, monsieur le maire.
N'importe quoi. J'ai adoré le film Souleymane.
Monsieur le maire est avec vous.
Mais tu fais des procès d'intention.
Monsieur le maire. Allez-y.
Non, mais j'entends le proposé qui m'est fait, mais moi je tiens à poser une question quand même. Vous imaginez un seul instant une mairie écologiste qui programme un spectacle qui fait la promotion du nucléaire?
Pourquoi pas, après c'est libre choix à tous ceux qui veulent le voir. Ben, moi, je trouve que, justement.
Ça reste l'argent du contribuable. Franchement, moi, je vous mets au défi de trouver.
Mais vos contribuables, pardon, monsieur Azéma, tous les habitants de Castres n'ont pas voté pour vous.
Ben, c'est ça. Ouais.
Donc, vous êtes aujourd'hui le maire de tous les habitants.
Non, c'est ce qu'on appelle la censure idéologique.
Monsieur, c'est de l'argent public. Je ne sais pas. Tenez bon, monsieur le maire. Si je vous ai donné un argument,
c'est de l'argent public. Et ce serait un argent public bien dépensé, puisque c'est une pièce qui cartonne. Vous allez gagner de l'argent.
Mais en plus, et que vous allez pouvoir après redistribuer.
N'écoutez pas Truchot.
Je voulais savoir, parce que vous dites c'est de l'argent public, c'est-à-dire ça coûtait combien la pièce de Michalik?
Ça coûtait plusieurs milliers d'euros. J'ai pas le chiffre exact, mais on était quand même sur plusieurs milliers d'euros.
Oui, mais c'est rentable, puisque vous allez bien gagner après.
Non, c'est pas rentable. Non, pour le coup, non, c'est pas rentable.
Alors ça, négocie mieux alors.
Pour le théâtre municipal de Castres, non, ce n'est pas rentable, malheureusement.
Et donc, comment vous savez que c'est pas rentable, justement?
Mais parce que, justement, j'ai vu aussi ce qui se passait au niveau des autres pièces. En fait, en réalité, cela coûte plus cher à la collectivité, au final, puisque...
Vous savez, c'est un autre argument, l'hébergement des artistes, etc.
C'est des coûts aussi...
mais là, c'est un autre argument. L'argument budgétaire, si nous vous dites on n'a plus d'argent pour faire ça, d'accord, mais donc c'est là, il n'y a plus de pièces.
Mais non, il assume qu'il a dit que c'était politique.
Vous assumez que c'est politique.
Sous couvert de culture...
Et nous, on a le droit de dire que c'est de la censure idéologique.
Alors, d'accord, sous couvert de culture, on fait l'idéologie. ça veut dire que, monsieur le maire, vous avez regardé toute la programmation, toute la saison. Il y a d'autres pièces qui vont comme ça être retoquées?
Non. Moi, je fais des choix. Vous avez bien vu, j'ai défendu, moi, dans le cadre de la campagne électorale, un programme en matière culturelle. Je l'applique.
Alors, quelle pièce a retenu votre attention, alors, justement?
Donnez-nous un exemple d'une pièce qui va.
Attention, parce qu'on comprend pas.
C'est le cas dans toutes les collectivités. Moi, je ne suis pas lié avec ce qui avait été décidé sur l'ancienne majorité.
D'accord, on a bien compris, mais donnez-nous l'exemple d'une pièce qui a vos faveurs.
Qui a retenu votre attention?
Non, mais là, je ne vais pas vous dire.
Pourquoi vous n'allez pas nous dire?
J'ai pas là sous les yeux le nom d'une pièce, non.
Et il a parfaitement raison, le maire. Tous ces cultureux de gauche qui sont sous perfusion des intermittents du spectacle, il y en a marre.
Vous êtes d'accord avec ça, monsieur le maire?
En partie, oui.
Merci, monsieur le maire de Casse, Florian Enzema. Merci d'avoir été avec nous. Le maire RN qui déprogramme la pièce d'Alexis Michalik, Passeport. Est-ce que vous trouvez que c'est de la censure, oui ou non? On vous a posé la question sur les réseaux sociaux. Vous avez entendu les arguments des uns et des autres. On va voir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est de la censure? Non, à quasiment 70%. Dans un instant, nouveau sujet de discussion.
Oh là là, c'est tronqué, ça,
avec les GG, avec les grandes gueules. On va rouvrir le dossier Patrick Bruel. Finalement, pas de détention provisoire. Il a un contrôle judiciaire assez strict, mais il a une caution de 500 000 euros aussi. Ça ne l'empêchera pas de remonter sur scène. Est-ce que vous trouvez ça normal ou pas? Venez en discuter avec nous au 32-16.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules, avec Maître Sandrine Pégan, avec Barbara Lefebvre et avec Emmanuel Devilliers. On va regarder le dossier Bruel, où il en est. Bon, il a échappé à la détention provisoire, Patrick Bruel, mais même s'il reste en liberté, il y a quand même une sacrée série d'obligations, et notamment de ne pas pouvoir quitter le territoire français.
Oui, il a l'obligation. Alors, déjà, tout d'abord, il est mis en examen pour 4 affaires, hein. Soyons précis, un viol présumé, une tentative de viol présumée, une agression sexuelle présumée, un harcèlement présumé. Il est témoin assisté pour 4 autres affaires. Mm-hmm. Il y a une affaire qui, finalement, est laissée tomber parce qu'elle est prescrite. Donc, pas de détention provisoire comme le réclamait le procureur, qui a quand même nommé 4 juges d'instruction, ce qui est un fait rarissime pour ce type d'affaires. C'est ce que nous ont dit à peu près tous les avocats à qui on a posé la question.
J'ai entendu que pour les attentats du 13 novembre, il n'y en avait eu que 2 au départ.
Non, il y en avait 6, il y en avait 2 de plus. Il y en avait 6 juges, je crois. Pour les attentats.
D'accord. Ouais, là, on parle des attentats.
Là, on en a 4 pour un seul homme.
Oui, mais il y avait, combien de victimes.
Voilà, c'est ça.
Donc là, 4. On voit bien que le procureur, et c'est peut-être d'ailleurs un problème, on va en débattre, c'est que quand ça devient médiatique, tout d'un coup, on se réveille. Quand c'est une animatrice de télé connue qui porte plainte et que celui qui est accusé est une star de la chanson, tout d'un coup, on a l'impression que la justice se réveille et est capable de trouver 4 juges d'instruction. Enfin, bon, bref, il voulait le foutre en tôle, pardon de l'expression. Finalement, le juge des libertés ne l'a pas suivi. Donc, contrôle judiciaire. Il doit rester en France, il doit payer 500 000 euros de caution. Il n'a pas le droit, bien sûr, de rentrer en contact avec les victimes, ni de se rendre à leur domicile. Il n'a plus le droit de se rendre dans un salon de massage. Là aussi, c'est dit dans le contrôle judiciaire, ne riez pas.
Non, mais c'est normal.
Mais il va devoir aussi justifier de soins psychologiques. Bon. Mais rien n'empêche Patrick Bruel de continuer à faire son métier et notamment de se produire sur scène. Je rappelle qu'il n'a pas annulé sa tournée des Zéniths qui commence à l'automne.
Alors c'est le gros problème qui lui est posé, outre la menace pénale, c'est cette tournée, parce qu'il est son propre producteur et on peut être assez convaincu, sans connaître les données contractuelles, que une annulation à son initiative contrainte dans ce contexte ne rentre pas dans la prise en compte d'assurance. Donc, étant son propre producteur, il y a un enjeu financier qui doit être considérable, peut-être de l'ordre de 15 millions d'euros, puisqu'il faut rembourser toutes les places vendues. Il y a eu beaucoup de fonds engagés dans toute une préparation d'autres collaborateurs, etc. Donc, il est dans une certaine poutrouille. Et ce dont on peut parler aussi, c'est, au-delà de ce qui a été décidé hier, ce sont des autres plaintes qui vont venir aussi, malheureusement pour lui, nourrir son dossier judiciaire.
Alors, moi, pourquoi, je trouve... pourquoi les 500 000 euros alors?
Alors, les 500 000 euros, donc, c'est à titre de cautionnement. Et je l'avais parié. Hein, j'avais même vu avec Abel, j'avais dit de toute façon, tu verras, il sera placé sous contrôle judiciaire avec un fort cautionnement. Ça s'est vu dans d'autres affaires. Le cautionnement, c'est quoi? C'est ventilé en deux parties. Il y a une partie pour assurer la représentation de la personne en justice, pour éviter qu'elle prenne la fuite parce qu'elle a versé un certain montant. Et le reste, c'est pour indemniser les parties civiles si condamnation il y a. Voilà, ou ça brûle aussi pour payer une amende, mais bon, tout ce qui est viol, il n'y a pas d'amende criminelle, c'est que de la réclusion criminelle. Donc voilà, ce cautionnement sert à ça. D'une part, à assurer la représentation en justice du mis en examen, pour éviter qu'il prenne la fuite, et d'autre part, si condamnation il y a, pour indemniser.
Oui, que réponds-tu, toi, en tant qu'avocate, à ceux qui disent « Ah ben oui, comme c'est Patrick Bruel, il ne va pas en prison ».
Alors, juste une chose. Moi, pour moi, au fond, cette décision, elle envoie un message simple et clair. C'est-à-dire que la justice ne doit pas être le porte-voix de la rue. Elle doit rester indépendante de l'opinion publique. C'était la vindicte populaire, etc. Et la justice, elle a été froide. Et elle a réussi à pouvoir statuer sur des éléments qui figurent dans un dossier dont on n'a pas connaissance. Parce que c'est bien beau, hein, on entend tout ce qui est au niveau de la presse, des bribes, etc.
Oui,
mais on n'a pas accès au dossier.
On n'a pas accès au dossier.
Et la preuve en est, c'est qu'il y avait 9 faits pour lequel le départ était poursuivi.
Les victimes parlent dans la presse, on a le détail, etc. On n'a pas accès au dossier, mais on a accès à une partie quand même du dossier.
Oui, sauf que donc c'est pas parce qu'il y a une partie civile, une plaignante qui vient pour dénoncer des faits et qui apporte elle-même soit des éléments, des messages, etc. Mais lui, vu qu'il a eu le temps de préparer.
Oui, c'est arrivé avec des dossiers,
des échanges, des indisponibilités. Par rapport aux dates qui ont peut-être été dénoncées par les plaignants, tout ce genre de choses. Donc c'est ça aussi la particularité. Et je veux dire même...
Parce que lui, il ne l'a pas fait dans la presse.
Pas fait dans la presse. Et donc, en attendant, quand tu es convoqué à la police, tu prends un avocat. L'avocat, il prend attache avec l'OPJ, donc l'officier de police judiciaire. Il demande quels sont les faits pour lesquels tu es poursuivi, les dates de prévention, pour que toi, tu puisses, avant même d'être placé en garde à vue, pouvoir produire les éléments pour ta défense qui seront débattus durant la garde à vue. Donc pour moi, cette décision... De toute façon, je ne pouvais pas me coucher hier soir tant que je n'avais pas su ce qu'il en était par rapport à Patrick Bruel. Et je le savais pertinemment qu'il n'allait pas aller en prison. Pourquoi? Parce que les faits qui sont retenus contre lui, c'est des faits qui datent de 2000 à 2019. Donc déjà, il n'y a pas de risque de réitération des faits, puisque là, on sait très bien et pertinemment que de toute façon, il sert même plus la main à une femme, j'imagine. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vois sa vie aujourd'hui. En effet, il a des attaches à Los Angeles, mais bon, avec la remise de son passeport, bon, ben, il pourra pas non plus prendre la fuite. Et le cautionnement, ça faisait partie aussi des conditions.
Mais il peut se produire sur scène.
Il peut se produire sur scène.
Parce que la question, ça va être de savoir, est-ce qu'il va le faire à l'automne, hein.
Là, le risque, c'est risque de trouble à l'ordre public aussi.
Oui. Puisque mais en attendant,
il y a des manifestations.
Ça avait été fait pour Jean-Luc Lahaye, rappelez-vous. Ouais. Mais Jean-Luc Lahaye, il y avait eu des précédents judiciaires. Il avait déjà été condamné à 2 reprises précédemment. Ouais. C'est pour ça qu'il y a eu.
Du coup,
aussi.
Jean-Luc Lahaye, maintenant, c'est tombé. Il rechante, il refait des concerts.
Oui, oui. Sauf que bon, il y en a un qui a été annulé.
Il doit essayer de négocier avec ses partenaires pour les faire un peu plonger financièrement dans le cadre de l'arrêt de la tournée.
Mamara.
Non, enfin, la question, je pense que c'est même pas. Va donc pouvoir remonter sur scène normal ou gênant? Je pense que ça va être compliqué pour lui de remonter sur scène. Je pense que ça va être compliqué pour lui d'avoir une vie publique tout court, mais c'est quelque part normal compte tenu de la gravité des plaintes qui sont déposées contre lui et que à un moment donné, il va falloir attendre pour lui que la justice passe. Je remarque néanmoins que sur d'autres affaires, notamment par exemple, enfin en tout cas moi je n'en entends plus parler, Gérard Miller, vous en entendez parler vous?
Ah non. C'est en cours. Oui, ah ouais, il a été mis en examen.
Ah c'est en cours.
Ah oui,
mis en examen. Et la presse, sous judiciaire,
est-ce que la presse...
Donc ça peut durer longtemps. Ouais.
Oui, est-ce que la presse et tout ça, tout ce qui s'excite sur Patrick Bruel continue de s'exciter
mais
sur
non,
Gérard Miller?
Mais Bruel, tu verras, ça va s'arrêter aussi. À un moment donné, on va oublier le truc et puis lui,
non,
il va attendre
oublier au niveau des médias, mais la justice va continuer à instruire.
C'est pas la même surface médiatique.
Gérard Miller, c'est pas la même surface médiatique.
Oui, mais alors chez Gérard Miller, il y avait quand même une certaine sérialité et des contextes.
Mais Gérard Depardieu aussi, et pourtant
pour
on en parle.
On oublie, comme vient de dire Olivier Truchot, oublie un peu, mais on n'oubliera pas vraiment, c'est quand même une star.
Oui, oui.
Il faut qu'il arrête sa tournée, parce que sinon, c'est un élément qui va
rajouter tout son dossier dans la machine. Il va remettre des pièces dans la machine en permanence. Donc, après, moi, la question que je peux me poser, je comprends qu'il garde le silence, Patrick Bruel. Mais c'est ça que je trouve parfois un peu...
Pourquoi ça garde le silence, tu veux dire, dans les médias?
Oui, parce que quand on voit, par exemple, pour Nicolas Bedos, Harry Habitant, Patrick Bruel, etc., ils ont été victimes d'un acharnement et d'un déploiement médiatique où on est venu raconter dans tous les détails les plaintes des victimes,
et des plaignantes plutôt, on va l'appeler plaignante d'abord, victime également si on veut.
Ce que je trouve normal, Nicolas Bedos a été condamné définitivement et en plus il s'est désisté de son appel.
La presse, elle est là depuis le 19e siècle pour raconter les histoires des puissants, etc. Donc allons-y gaiement, étalons tout sur la place publique. Mais je ne comprends pas. Et parce que je le sais, bien souvent, les avocats vont vous dire « Non mais attends, tais-toi, fais le dos rond, ne dis rien, laisse passer. » Donc tu laisses tes accusateurs étaler dans la vie médiatique des erreurs, des mensonges. Et toi, tu ne réponds pas parce que tu te dis « Je vais pas répondre parce que je vais réserver mes réponses au juge. » Au final, quand tu réponds au juge, bon bref, ça passe ou ça casse. Mais en tout cas, toi, tu n'as pas pu te défendre sur le terrain médiatique où tu t'es fait lyncher.
Sébastien Coé l'a fait, rappelle-toi, il était venu sur le plateau de BFM TV quand il avait été accusé.
Mais il est toujours poursuivi.
Sauf que bon, il a réussi à faire condamner aussi une de ses maîtres chanteuses.
Et bien justement, j'allais prendre cet exemple. Parce que Sébastien Coé, on en a fait énormément. Quand il est venu se défendre, je ne dis pas que derrière ça a déballonné l'affaire, puisque l'affaire il y a. Donc de toute façon la justice passera. Mais n'empêche que du autre côté, ça s'est un peu calmé. Ça a calmé aussi les gens qui venaient raconter tout et n'importe quoi sur la place publique. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, puisqu'on entend une parole, c'est comme à la justice, il doit y avoir la partie civile et la défense qui s'exprime.
Un droit de réponse.
Et je pense que les avocats ont tort parfois de demander à celui qui est attaqué de se taire. Voilà.
Anecdotiquement, et ceux qui nous écoutent vont le comprendre, il n'est pas normal que hier, son départ du tribunal à minuit et quart ait été filmé par des motos suiveuses jusqu'à pouvoir identifier l'entrée de son domicile. Il y a quand même des limites.
Et t'as vu, ils l'ont pris en photo comme ça, là, juste avec sa taxi moto.
Et c'est pour ça que je dis, Bruel devrait maintenant prendre la parole. Bruel doit dire sa vérité à lui, qui n'est pas la vérité juridique. La vérité juridique, on l'aura la fin.
Barbara, le problème,
mais il ne devrait pas rester silencieux.
Mais Barbara, dans une autre affaire, parce que celle de Patrick Poivre d'Arvor, à un moment donné, PPDA est allé au devant, il a expliqué. Ça relance la machine. D'ailleurs, ses avocats étaient contre.
Pas toujours.
Il a parlé, je crois que c'était à Quotidien. Il avait parlé quand il y avait eu des plaintes, etc. Et en fait, ça excite tout le monde. Bien sûr, et en général, ça relance le truc.
Le président Sarkozy est allé sur les plateaux de 20h. Ça ne marche jamais.
Mais non. T'es pas forcément bon, Barbara. Parce que quand t'es accusé, t'es pas forcément bon. Après, quand tu vas pour déballer un peu ton histoire, nous, les avocats derrière, on construit, on a un argumentaire. Oui. Voilà, donc on a des éléments de langage.
Non, mais tu le prépares avec ton client.
Tu le conseillerais là.
Mais tu prépares ça avec ton client.
Du point de vue tactique, tu le conseillerais ou pas?
Alors pas tout de suite, parce que là, à mon avis, il doit être rétamé, sincèrement. Et 3 jours quand même. Quand tu sais pas ce qui va t'arriver, tu sais pas si tu vas être conduit à l'échafaud, t'as dormi à peine 2 heures. Ok, très bien. Il y a des victimes, il y a des plaignantes, etc. Bon, des plaignantes parce que pour l'instant elles ont toujours ce statut-là. Donc bien sûr, elles ont de la souffrance. On la comprend cette souffrance. Maintenant, pour lui, ça a pas dû être évident. Je lui conseillerais peut-être de prendre à un moment donné la parole en fonction des éléments qu'il a pu produire pour sa défense. Si vraiment c'est béton, on y va. Et bien sûr qu'il y a un secret de l'instruction, donc bien sûr on dévoilerait rien, mais en tout cas on viendrait pour apporter un droit de réponse.
Cette prise de parole, on a vu Sébastien Coé l'a fait dans un média télévisuel, mais la prise de parole, elle peut être faite de façon écrite. Ça peut être une interview dans un journal, cadrée par les avocats, etc. Mais
il
moi, je
fait
pense
un communiqué
mais
il de presse
déjà
sur Instagram.
Sur Instagram.
Oui,
déjà
mais Instagram.
Mais d'accord, on peut pas comparer le dossier Coé et le dossier Bruel.
D'accord.
Tu posais la question là il y a quelques minutes sur Gérard Miller. J'ai juste revérifié. Il est mis en examen pour viol et agression sexuelle sur 6 femmes. Un 7e fait de viol présumé. Il est sous contrôle judiciaire. Interdiction d'exercer la psychanalyse, d'avoir une activité avec les mineurs. Il a une caution de 65 000 euros et une obligation de soins.
Moi, ce qui me choque toujours, c'est cette lenteur de la justice. C'est-à-dire que, donc là, Patrick Bruel, il est mis en examen. Miller est mis en examen. Et après, il va rien se passer. Alors on nous dit que si on enquête,
c'est pas parce que ça ne figure pas dans les médias qu'il ne se passe rien.
Ça se passait très lentement.
C'est trop long.
Ça va se passer trop longuement pour les victimes. Je me mets à la place de la plaignante et même de celui qui est accusé pour les deux.
Surtout pour la plaignante de 1992.
Non mais sa carrière, elle est terminée pour l'instant. Donc lui va espérer que le procès. Je pense qu'il voudrait que le procès arrive vite pour passer à autre chose, mais il n'arrivera pas vite. Les victimes voudraient que le procès arrive vite pour elles aussi se reconstruire. Ça n'arrive pas vite.
suite.
Que donc la justice, clair, là, c'est la pas justice 2030,
ne, répond à, ne répond à rien, ne répond pas aux besoins des victimes et ne répond pas aux besoins des accusés. C'est pour ça que cette justice, elle est incompréhensible.
Alors, excuse-moi, je vous rappellerai
aux États-Unis,
juste,
ça, tout ça serait réglé en un an. Et
je
on
vous rappellerai juste le cas de l'époque.
Même avec des transactions, d'ailleurs.
Ben oui, mais d'ailleurs,
il avait déjà fait une transaction en Suisse. Mais je vous rappellerai juste le cas de l'erreur judiciaire, quand même, qui est assez symptomatique et très significative, de Loïc Scherer, qui a été condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour viol sur mineur. Elle avait 14 ans. Oui. Il a fait 7 ans de détention. Oui. Et au bout de 7 ans, la plaignante, qui était devenue victime, puisqu'il avait été reconnu coupable, elle n'endormait plus de la nuit. Elle ne faisait que vomir. Et au bout de 7 ans, elle est allée dénoncer ses mensonges. Donc voilà. Oui. Et là, et tout ça parce que lui, il avait le profil parfait. Il était dépressif, il était alcoolique. Oui. Et donc, du coup, il s'est mal défendu.
Mais ça ne pas que ça traîne pour tout le monde.
Oui,
pardon.
C'est pas ça. C'est juste pour dire que vaut mieux que la justice prenne son temps.
Non, elle ne prend pas son temps.
Non. Ensuite de quoi, il y a tous les éléments présents
au dossier
pour asseoir sa culpabilité.
Elle prend son temps parce qu'il y a trop de dossiers, parce qu'elle ne priorise pas, parce qu'elle est enfermée dans des procédures, les fameux vis de fente qu'il ne faut pas faire, etc. C'est ça. Mais et en plus, elle ne tient au courant
personne. Non, mais attends, tu ne vas quand même pas nous empêcher de pouvoir œuvrer dans les droits de la défense. Donc, bien sûr qu'on fera des procédures si besoin est.
Bah voilà. Patrick Bruel, va pouvoir remonter sur scène. Est-ce que vous trouvez ça normal, oui ou non? On va voir ce que vous en dites. C'est sur les réseaux sociaux. Vous dites quand même que c'est gênant. À quasiment 56%, enfin 44% qui trouvent ça normal. Le niveau en orthographe, on va l'évoquer maintenant. On assiste à une chute phénoménale du niveau de français, d'orthographe, de syntaxe, de rédaction. Donc du coup, il y a à l'université des cours obligatoires de remise à niveau. Allez, venez en parler avec nous au 32-16, il est 11h25.
Plus. RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Vous êtes avec les Grandes Gueules et vous savez que c'est en direct à la radio RMC, à la télé RMC Story et c'est le canal 23 de la TNT. On va parler orthographe maintenant avec Sandrine Pégan, Emmanuel Devilliers et Barbara Lefebvre.
C'est pas ce que vous croyez, un film de Peter Becherel. Nous croyons que vous sachiez des choses, Graham.
Croyez ce que vous vouliez, moi j'y suis pas été.
C'est pas ce que vous croyez, le premier film qu'avec des fautes de grammaire.
Elle est mourue étranglée avec une corde.
C'est pas ce que vous croyez, le film qu'il faut aller avoir vu avec John Syntax et Peter Faute d'accord.
La réforme de l'orthographe, mue pourtant éviter des baffes. Quand je tombais dans le panneau, de charrette et chariot, le roi pourtant fut bien le roué. Le François devint le français, et Molière mit aussi.
Un petit salut à Pierre Perret d'ailleurs, qui je sais, de temps en temps jette une oreille ou un œil au GG, aux Grandes Gueules, que l'on salue amicalement. Ce sont les termes employés, hein. Chute phénoménale du niveau de français, du niveau de syntaxe et du niveau d'orthographe.
Et donc pour essayer d'y remédier, on organise désormais dans les universités des modules en ligne de maîtrise du français, des exercices à faire en autonomie ou parfois accompagnés en cours. Alors c'est pas nouveau, mais là la tendance a été entamée depuis quelques années, mais enfin là ça s'accélère. D'ailleurs ça ne concerne pas que l'université, puisque vous avez entendu le ministre de l'éducation actuelle, Édouard Geffray, annonçait vouloir durcir la notation des copies du prochain bac, qui est le premier diplôme de l'enseignement supérieur. Mais une question, en fait, là, on est en train de réparer des choses qui ont été mal faites avant. Écrire correctement le français, bien le parler, ça s'apprend à la maternelle, au primaire. Voilà. Donc là, finalement, on attend que les gamins aient 17 ans, 18 ans pour se rendre compte que c'est une catastrophe et qu'on va essayer de limiter la casse. Est-ce que vous y croyez à ces cours de français?
Est-ce que vous y croyez?
Est-ce que vous y croyez?
C'est une tendance de notre époque avec notamment les téléphones, WhatsApp, les SMS. On peut le dire aussi sans agressivité, le rap, au passage. Il y a une déstructuration de la langue française et faut pas forcément pointer l'éducation nationale stricto sensu. Il est clair qu'il y a une dérive et une dégénérescence de la maîtrise des orthographes.
Mais comment on y remédie?
C'est une fatalité,
c'est ça.
On l'endigue, mais y remédier pour revenir à un orthographe parfait des Becherel et autres, c'est sans doute illusoire. Et
alors Sandrine, comment est-ce que tu fais justement avec tes élèves avocats qui arrivent?
On est obligé de contrôler en permanence, de leur dire bon, là, attention, j'ai même parfois envie de leur acheter un Becherel. Non, mais c'est malheureusement la réalité. Je ne suis pas là en train de d'essayer de vous faire rire, c'est que c'est un constat. Mais là, on dit que ça serait à l'université qui est une espèce de remise à niveau. Ça serait peut-être un peu trop tard pour moi. Et je pense aussi que les parents ont un rôle. Parce que quand un enfant grandit dans une famille où tu lis, où tu discutes, où tu échanges, donc déjà, l'enfant, lui, il va aussi grandir avec un vocabulaire, avec une langue un petit peu plus enrichie. Si tu lis ne serait-ce que 10 minutes par jour pour un enfant, mais forcément que son vocabulaire va s'enrichir, forcément que tu vas avoir des formules employées qui vont pouvoir se développer dans ton esprit, etc. Et après, redire ça à l'école. Je pense que les parents aussi devraient imposer la lecture, devraient imposer les échanges à table, au lieu de les laisser toujours sur leur smartphone, à regarder les tablettes, à regarder les jeux vidéo, etc.
Alors, un tout petit mot, le pendant positif de la déstructuration liée au portable, c'est quand même maintenant tout ce qui s'apparente au correcteur de rédaction et d'orthographe, qui est quand même un plus pour les gens qu'on dit.
Mais ce qui est intéressant, c'est que certains professeurs d'université disent, en fait, le problème, c'est que l'orthographe est trop compliquée. Donc, donc il faut réformer l'orthographe.
C'est discriminant, pas.
C'est ce que dit Christophe Benzitoun, qui est directeur du département d'essentiel du langage à Nancy, qui milite pour une réforme de l'orthographe.
Redonne-nous son titre, directeur du département des sciences du langage à Nancy.
Il dit, si on se focalise sur l'orthographe et la grammaire, au bac, au brevet, ou dans les études supérieures, eh bien, le premier effet sera une discrimination sociale.
Voilà.
Puisqu'il y a un lien très direct entre la maîtrise de l'écrit correct et le milieu social. Donc, pour ne pas discriminer, acceptons les fautes d'orthographe. D'ailleurs, il dit lui-même, les fautes d'orthographe, c'est pas grave, sauf si c'est des fautes de syntaxe, on comprend plus rien. Mais en gros, laissons un peu faire et réformons, rendons plus simple l'orthographe, comme ça, il y aura plus de problème.
Alors qu'il est chargé avec son titre ronflant, du contraire.
Il est directeur du département des sciences du langage à Nancy.
Je signale quand même que le fait que ce monsieur, compte tenu du titre de ce monsieur, il a certainement des cours de formation vis-à-vis des nouveaux enseignants, etc. Parce que c'est des gens, c'est du supérieur. Des gens qui ont un savoir académique. Pour moi, c'est déjà la négation absolue de l'école de la Troisième République, de l'école de la République. L'école de la République, c'est l'école de tous. Et surtout, c'est l'école du même enseignement pour tous. Je suis navrée vis-à-vis de ce monsieur, mais nous sommes en droit de vouloir que l'enfant d'ouvrier, que l'enfant des milieux populaires ait justement la chance, parce que dans son milieu social d'origine, il n'a peut-être pas les moyens d'avoir la stimulation littéraire qui va lui permettre d'acquérir le niveau d'orthographe d'un gosse de bourgeois, de l'atteindre. Et jadis, oh miracle, comment se fait-il que tant d'enfants de la classe ouvrière arrivaient à maîtriser l'orthographe et la grammaire au même titre que les enfants de bourgeois, parce que l'école, elle savait être exigeante. Alors l'exigence, je sais bien sûr, c'est oublié, et c'est pour ça d'ailleurs, au classement PISA, les pays en tête du classement PISA, ce sont les pays asiatiques. Macao, Hong Kong, Japon, Singapour, bien sûr, Corée du Sud. Pourquoi ? Parce que là-bas, on valorise la culture de l'effort. On valorise la culture des savoirs. L'engagement familial est complet et par ailleurs également aussi un respect social extrêmement poussé vis-à-vis du corps enseignant. C'est une mentalité. Cette mentalité, elle a disparu en France à cause de gens comme ce monsieur. Car je veux juste rappeler une chose.
Seul, hein. Il y en a beaucoup à l'université qui tiennent
ce discours. Il n'y a que ça. Ça s'appelle... Ils ont un nom. Ils s'appellent les pédagogistes. Voilà. D'accord ? Bon, on les subit. Et je voudrais juste rappeler une chose. Moi, je suis enseignante depuis 1998. J'ai donc assisté à la dégringolade. En 2000.
Mais comment tu l'expliques ?
En 2000,
toi,
la France.
Toi, sur ça, tu.
Je vais l'expliquer.
Intransigeant.
En France, en 2000, la France, elle était au-dessus de la moyenne de l'OCDE. À partir de la décennie 2010, il y a eu une baisse régulière. Nous avons été des centaines à alerter. Moi, d'autres, on a écrit. Natacha Polony a écrit des livres là-dessus. Tous les profs se sont plaints de ça. Qu'est-ce qu'on nous a dit quand on disait le niveau baisse? On nous a dit non, vous êtes des réacs, oui. Vous voulez l'école de la Troisième République, vous ne comprenez pas les discriminations, l'orthographe c'est discriminatoire, la pédagogie. Et maintenant, 2022-2024, c'est un décrochage historique, on a perdu 19 points. Là maintenant, les Mérieux et compagnie qui, dans les années 2000, nous ont dit qu'on était des fachos, qu'on était des réacs à dire que le niveau baisse, etc. Maintenant, ils disent, ah oui, c'est vrai, maintenant, c'est catastrophique. Donc, ces gens-là, quand dans les années 2000 et 2010, on a sonné la sonnette d'alarme, qu'on a dit qu'il fallait reprendre l'apprentissage syllabique, qu'il fallait faire travailler l'orthographe et la grammaire, tous ces gens-là nous ont dit non, qu'on était des débiles. Ils ont tenu la formation des profs. Et maintenant, ils viennent pleurer sur le lait renversé. Ils ont tué deux générations d'élèves. Ces gens-là sont responsables de l'état actuelle, lamentable, des classes populaires.
Christine, bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Vous êtes formatrice indépendante et vous avez rajouté des modules, justement.
Oui. Ouais. Alors moi, mon public, en général, c'est entre 20 et 60 ans. En moyenne, c'est 40-50 ans. C'est des gens qui ont appris le français à l'école en France, hein, parce que ceux qui viennent de l'étranger, ils s'investissent beaucoup plus, ils vont lire, etc., pour mieux appréhender le français, qui n'est pas une langue facile. Mais par contre, ouais, catastrophique, parce que alors moi, en plus, c'est des bacs, bac et bac plus 2, les titres pro que j'enseigne, en secrétariat assistana. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, en fait, d'écrits à produire, même pour leur examen. Ils ont un dossier professionnel. Et si vous imaginiez, mais les fautes, hein. Enfin, c'est, enfin, moi, j'ai 50 ans, c'est ma génération. Et aujourd'hui, les gens ne savent plus, en fait, écrire. Donc, tout à l'heure, on rigolait avec les dictées. Mais j'ai un de mes groupes qui m'a proposé, effectivement, de faire des dictées.
Donc, il y a, il y a une prise de conscience de leur part aussi, alors.
Bah, je leur explique dès le départ. Il n'y a pas à avoir honte, en fait. Mais, ils peuvent pas se présenter à un examen. Je suis obligée de relire à voix haute. Hein,
mais Christine,
documents.
Je voudrais vous poser une question parce que il y a à la fois ce qui se voit à l'écrit. Mais ce qu'ils disent à propos des universités, c'est qu'il y a même des problèmes dans l'élocution, dans le langage. Est-ce que vous le constatez, vous aussi, ou pas? C'est-à-dire dans la syntaxe, dans on choisit des mots plutôt que d'autres. Qu'est-ce que vous en dites?
Alors oui, et surtout aussi, je voulais revenir, parce que comme on parle de syntaxe, etc., la première chose que, alors je les oblige tous à faire ça au départ, que ça leur plaise ou non, mais après ils se rendent compte que c'est hyper important, c'est la ponctuation. La ponctuation française. Hein. La ponctuation, ils ne savent pas. J'ai des paragraphes de 15 lignes où j'ai pas de points, j'ai pas de virgule, où j'ai rien, et je ne comprends rien, ça change le sens. Et en fait, ce que je leur fais faire, c'est que j'ai pris un texte dans la gloire de mon père, parce que j'adore Pagnol, et j'ai enlevé toute la ponctuation, et j'ai tout laissé le texte comme ça à nu, mais sans mettre les lignes à ligne ni quoi que ce soit. Et je leur dis, voilà, maintenant vous avez. Alors ils mettent une à deux heures, hein, pour remettre en forme un texte parce qu'il y a du dialogue.
Christine, ça c'est un exercice qu'on doit faire en primaire. Normalement, ça devrait se faire en primaire et ça existe. Et mais l'inspection.
Ça me permet de leur expliquer après, quand on fait la correction, que quand ils mettent pas les guillemets où il faut, ça change complètement le dialogue et le sens du texte.
La virgule. Oui, mais Christine,
voilà,
ce que vous faites.
Celui qui lit, c'est des paragraphes de 15 lignes sans aucun point ni rien. Oui. Je voulais juste imaginer.
Ce que fait Christine, elle peut le faire parce qu'elle est formatrice. Formatrice indépendante, elle n'a pas au-dessus d'elle l'inspecteur de machin truc qui va venir lui expliquer que non, la maîtrice de CM1 ou la maîtrise de CE2 n'a pas le droit de non parce que c'est trop compliqué pour les élèves, ça les décourage. Quand ça décourage, c'est pas bienveillant. Quand bienveillant, ils peuvent avoir des traumatismes et après ça va pas, faut aller chez le psychologue.
Et ça va créer
aujourd'hui,
de la frustration.
Moi j'ai des élèves qui sont de bonne volonté. Et moi, c'est ça qui me fait de la peine. Ils sont de bonne volonté. La pauvreté de leur vocabulaire fait que lorsqu'ils doivent me formuler une réponse ou formuler une argumentation, eux-mêmes, au bout d'une ou deux phrases, je vais vous dire, ils me disent, madame, je sais, mais je sais pas le dire. Voilà. Je comprends, mais je sais pas.
À nous aussi de s'améliorer. À chaque enfant aussi de vouloir sortir.
Merci Christine de votre témoignage. Et je voulais m'excuser auprès de Clément qui nous appelle de Norvège. On aura l'occasion de vous revoir, Clément, en direct, qui est étudiant. Et pour rentrer dans l'université en Norvège et avoir le droit de rentrer, il a dû passer 4 examens de langue, simplement pour vérifier que tout était OK. Allez, suite des GG dans un instant.